Si vous vous concentrez sur votre travail et que vous ne laissez personne vous en détourner, un jour, vous atteindrez votre objectif. Vous regarderez autour de vous et vous saurez que si vous êtes là, c'est grâce à vous-même et aux gens qui vous aiment et non à ceux qui s'attribuent tout le mérite de votre travail acharné. Et cet accomplissement sera la plus belle sensation de votre vie. Taylor Swift.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Petite émission sur la méritocratie, hein, à venir, visiblement. 12h et, ça va me plaire, 12h05, il y a Evian, Marie-Agnès Baupin autour de cette table, Hélène Maquet. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Avec vous et avec Sébastien Ministru, yes, on va parler de Taylor Swift. Pourquoi? Eh bien, parce que cette nuit, à minuit une, c'est l'événement. Taylor Swift sort de Torture Poets Department, son tout nouvel album. Taylor Swift qui est la première artiste à avoir été élue personne de l'année par le magazine Time. C'était en 2023. On dit qu'elle va peser dans l'élection américaine du 5 novembre prochain, qu'elle est aussi une femme milliardaire. Elle est rentrée dans le classement Forbes et contrairement à Rihanna ou d'autres, elle est devenue milliardaire uniquement, j'ai bien dit, uniquement grâce à sa musique. C'est rarissime, évidemment, qu'une telle fortune soit accumulée uniquement grâce à la musique. Et là, en l'occurrence, c'est son Eras Tour qui a tout rasé sur son passage. Qui est Taylor Swift? Que dit-elle du monde dans lequel nous vivons économiquement, politiquement? Elle est rentrée même dans les universités, Taylor Swift, notamment à Gand, ici, juste près de chez nous. On en parle d'entrée sans frapper aujourd'hui. Sébastien Ministru, vous allez aussi vous plier à l'exercice du classico aujourd'hui.
Oui, avec un classique de la littérature policière, devenu un classique tout court. Monsieur Ripley de Patricia Highsmith qui revient dans l'actu avec une, grâce à une nouvelle série Netflix avec l'incroyable Andrew Scott.
Exactement. Bonjour Franck Istas.
Bonjour Jérôme.
Inspiré de faits réels.
Alors moi, je viens vous parler de Torgal, monument de la bande dessinée populaire de Vanham et Rosinski. Alors vous savez que Torgal, c'est un viking, mais c'est aussi un extraterrestre. Mm-hmm. Et tout ça, c'est inspiré de faits réels. Je vous raconterai pourquoi.
Ah,
je vous
prends. Il y a eu des vikings extraterrestres.
Eh ben oui. Ah oui, oui. Ah. Mais vous verrez.
Ok, bah on
comme chaque
verra.
Semaine, écoutez, vous serez surpris.
On vous donne votre chance, vous le savez. 12h07, c'est entrer sans frapper.
Entrez sans frapper sur la première. Le classico.
Sébastien Ministru, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Dans le classico aujourd'hui, un classique donc de la littérature policière, Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, dont on peut voir une nouvelle adaptation sur Netflix.
Oui, la série de Steven Zaillian replace donc sur le devant de l'actualité Tom Ripley, personnage fétiche donc de l'américaine Patricia Highsmith. La série est très, très, ouais, elle est hyper stylée, mm-hmm, en noir et blanc, lente et presque silencieuse, tellement parle peu dans cette série. Et elle est portée à bout de perversité par l'acteur irlandais Andrew Scott, à bout de perversité parce que Tom Ripley est un homme qui joue beaucoup avec les limites et qui fait tout pour obtenir tout ce qu'il veut, mm-hmm, tout, y compris séduire, faire souffrir et tuer. Mm-hmm. On a souvent vu le personnage de Tom Ripley à l'écran, évidemment dans Plein Soleil de René Clément en 1960. Et c'est Alain Delon qui prête sa beauté du diable à ce type qui est complètement diabolique, qui est donc Tom Ripley. On l'a vu aussi sous les traits de l'incroyable Dennis Hopper dans L'ami américain de Wim Wenders en 1977. Et puis aussi dans une version un peu plus patachonne, je trouve, interprétée par Matt Damon, mm-hmm, en 1999 dans un film d'Anthony Minghella, qui, comme le film avec Alain Delon, et comme la série Netflix actuelle, est l'adaptation du premier tome de la saga imaginée par Patricia Highsmith. Premier tome, donc, qui s'intitule tout simplement Monsieur Ripley.
Parce qu'en fait, Patricia Highsmith a écrit plusieurs romans dont le héros est Tom Ripley.
Il y en a 5 en tout, et parole de fan, mieux vaut commencer par le premier pour bien comprendre et bien savourer l'évolution du personnage, pour bien comprendre qui il est, d'où il vient et pourquoi il agit comme il agit, c'est-à-dire comme un sociopathe. Monsieur Ripley a été publié en 1955 en anglais, un an plus tard en français. Ce premier volet permet donc de faire la connaissance de ce jeune homme, Tom Ripley, qui vit en solitaire dans une pension minable à New York. C'est un garçon fauché, un petit escroc sans aucune envergure qui fait des faux en écriture. Il n'a pas beaucoup d'éducation, il n'a pas les codes, il n'a pas les manières pour se tenir en société. Et puis surtout, il nous est présenté comme un orphelin, comme un sans famille, ce qui est déterminant dans son parcours, celui d'un garçon abandonné en quête de repères pour se construire une identité. Mmh. Et l'histoire commence réellement lorsqu'un riche industriel à New York contacte Tom pour lui demander de faire le voyage jusqu'en Italie afin de retrouver, de raisonner son fils Dickie Greenleaf et lui demander de rentrer aux États-Unis. À Montebello, qui est un magnifique village d'Italie, Dickie vit une vie de jeune oisif. C'est un fils à papa qui voudrait être peintre mais qui peint mal et qui entretient une relation amoureuse avec Marge, qui elle aussi appartient à cette caste BCBG de l'époque.
Mmh. Et puis débarque Tom Ripley et une machine infernale se met en route.
Et dès qu'il voit Dickie Greenleaf, donc le garçon qu'il doit ramener aux États-Unis, Tom Ripley ne peut pas faire grand-chose contre ses fantasmes et contre le trouble de la personnalité qui va l'enfermer dans une spirale mortifère. Tom Ripley est un garçon triste, mais avide de richesse. Il souffre de ne pas être à la hauteur des autres. Et tout de suite, après leur première rencontre, on peut lire « Tom envia Dick et fut saisi en pensant à lui d'une violente sensation de jalousie. » C'est là que le livre de Patricia Highsmith devient très intéressant et très palpitant. Tom, comme on pourrait le croire, ne veut pas avoir Dick. Il veut être Dick. Il veut être lui, d'où la suite de l'histoire. On la connaît avec élimination du corps de l'ami et usurpation d'identité. Voilà comment s'exprime l'élan qui porte Tom Ripley à devenir Dickie Greenleaf, dont il évoque le beau visage osseux et arrogant. Un élan qui, dans un mélange d'envie, d'admiration, de dégoût et de désir, le pousse à réaliser son fantasme, le remplacer. Fantasme qu'il a mis en scène déjà en détournant de la garde-robe de Dickie des vêtements dont il va se parer une fois nu devant le miroir. Et devenir Dickie, je cite, « donner à son existence une atmosphère particulièrement délicieuse de pureté, un peu, songeait Tom, comme ce qu'éprouve un bon comédien quand il joue un rôle important sur scène, avec la conviction que personne d'autre ne pourrait mieux que lui le tenir. »
Ok, mais c'est vrai qu'on l'a vu plein de fois au cinéma et on continue de le revoir. Là, il y a une série Netflix en 2024, c'est-à-dire 70 ans après la sortie. Qu'est-ce qui fait la modernité de Monsieur Ripley, paru donc en 1955?
Sans doute la finesse de la description psychologique du comportement du personnage qui est absolument affolant. Je veux dire, c'est un personnage de salaud, mais il est tellement attirant. Tom Ripley est un chef-d'œuvre d'ambiguïté, tellement ambigu que les autres, et c'est une question très contemporaine qu'elle se pose déjà en 1955, tellement ambigu que les autres finissent par avoir des doutes sur son orientation sexuelle. À un moment, dans cette douceur de vivre, dans la dolce vita qui fait leur quotidien, Dickie dit à Tom Ripley, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais sachez que je n'en suis pas. Dickie, toujours à propos du comportement borderline de Ripley, eh bien Marge croit que vous êtes une tapette. Et Ripley de répondre, Dickie, je tiens à mettre ceci au point, je ne suis pas une tapette non plus. Ce qui n'est franchement pas sûr pour quelqu'un qui un jour a dit, je n'arrive pas à décider si je préfère les hommes ou les femmes. Dans le livre, il y a une dizaine de moments où Patricia Highsmith s'approche de Ripley et de Dickie, tout en laissant deviner une relation sensuelle, virile, homophile, appelez ça comme vous voulez. Et un jour, Marge, la fiancée de Dickie, qui observe le manège, écrit à Dickie, à son fiancé, « Vous fuyez. Pourquoi n'avouez-vous pas que vous ne pouvez pas vivre sans votre petit camarade? Je regrette seulement que vous n'ayez pas eu le courage de me dire ça avant. Et franchement, pour qui me prenez-vous? Pour une pauvre provinciale qui ne comprend rien à ces choses-là? » Sachez que plus loin dans la saga de Tom Ripley, dans les autres tomes, on découvrira que Marge avait raison. Et Patricia Highsmith installe dans la littérature des années 60 un des très très rares personnages bisexuels.
Ouais.
Faites un truc moderne, hein, lisez un classique, suivez le vénéneux mais irrésistible Monsieur Ripley de Patricia Highsmith.
Wow.
Et pour illustrer cette séquence et revenir à la série Netflix dont on parlait au début, eh bien on va écouter ce que Tom Ripley écoute là-bas sous le soleil de son Italie en noir et blanc, Quando Quando de Tony Renis.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Quando Quando, Tony Renis. Ce soir à minuit une sort le nouvel album de Taylor Swift. Alors ça a l'air anecdotique comme ça, ça ne l'est pas. The Torture Poets Department sort ce soir, ça va être une razzia évidemment. Taylor Swift, c'est la seule artiste à avoir été élue, hein, personnalité de l'année par le magazine Time, milliardaire aujourd'hui grâce à sa musique. Qui est Taylor Swift? Quel est son impact sur la pop culture? Mais quel est aussi son impact économique, voire politique, parce qu'on dit qu'elle va peser dans la campagne à venir aux États-Unis. Les élections, ce sera le 5 novembre prochain. Mais la réponse, c'est tout de suite.
La première.
And the Grammy goes to Taylor Swift. The craziness around Taylor Swift and fans desperate to score a ticket is next level.
Taylor, I love you.
I love Taylor Swift and I can't wait to see Taylor Swift live.
Entrée sans frapper.
Entrée sans frapper spéciale sur le phénomène Taylor Swift avec vous, hein, Hélène Maquet, mm-hmm, et Sébastien Ministru. On commence avec vous, Séba. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'elle, enfin entendu parler d'elle, c'est difficile hein, maintenant. Qui est Taylor Swift en fait? Est-ce que vous pouvez un petit peu d'abord, pour qu'on comprenne bien ce dont on va parler, nous résumer sa trajectoire?
Alors Taylor Swift, c'est une gamine ordinaire devenue une artiste extraordinaire. C'est une petite fille anonyme de Pennsylvanie devenue à 34 ans l'une des jeunes femmes les plus puissantes, sinon la plus puissante de l'industrie de la musique aux États-Unis. Une femme dont on va en parler, l'impact culturel, politique et économique est tout simplement énorme. Taylor Swift à ce jour a déjà sorti 10 albums, dont le premier en 2006 alors qu'elle n'a que 16 ans. Et son aura artistique, on va dire, a mis un certain temps arrivé jusqu'à nous, au point où on ne s'est pas tout de suite rendu compte du phénomène qu'elle avait engendré. Ici, on connaissait son nom, on n'avait pas toujours bien entendu sa musique.
Mais pourquoi?
Parce qu'en fait, si on remonte aux origines de la carrière de Taylor Swift, on constate que Taylor Swift est un pur produit du circuit country, mm-hmm, qui aux États-Unis représente un marché dans le marché. Il y a des radios country, des labels country, des classements de vente country, des cérémonies de remise de prix country et une capitale évidemment de la production country qui est Nashville. Tout ça est évidemment gigantesque en Amérique et chez nous, à part pour les amateurs, eh bien cette culture de la musique country est plutôt absente dans nos réflexes de consommation et dans nos goûts. Alors même s'il y a des grands noms de la country qui sont connus chez nous, Dolly Parton, Willie Nelson, Emmylou Harris ou même Feu Johnny Cash ou Patsy Cline, je ne pense pas qu'ils et elles vendent beaucoup de disques en Belgique. C'est assez rare de voir des artistes country sortir du circuit américain pour faire des tubes chez nous. Il y en a eu, mais c'est vraiment très, très anecdotique. Je pense à des artistes comme Lynn Anderson, Tammy Wynette, Crystal Gayle, Charlie Rich, qui à un moment donné sont arrivés à placer un titre dans les charts chez nous, mm-hmm, et puis à disparaître complètement du paysage, alors qu'ils et elles continuent des carrières incroyables aux États-Unis. Mm-hmm. Donc voilà, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Garth Brooks.
Oui, voilà.
Voilà, ce type est un des plus grands chanteurs country et un des plus grands vendeurs de disques aux États-Unis. Chez nous, il n'existe pratiquement pas. Taylor Swift vient de ce circuit-là. Elle s'est très tôt, à partir de 12-13 ans, distinguée par son goût pour la country et par l'envie de percer sur ce marché. C'est d'ailleurs ce qui a poussé ses parents à déménager et à installer la famille à Nashville pour pouvoir être plus près du centre de production.
Ça veut dire qu'il y avait des projets pour la petite, hein, quand même.
Son rêve, c'est quand même d'enregistrer un disque avec ses composition, puisque, et c'est sans doute là une des raisons de son immense succès, de sa prise de pouvoir et de l'affection que lui porte le public, Taylor Swift écrit tout elle-même. Voilà, c'est la grande différence avec une fille comme par exemple comme Britney Spears. Elle a composé, Taylor Swift a composé sa première chanson, Lucky You, à 13 ans. Je vous la passe pas parce qu'elle est coussi-coussa.
Alors, le moins qu'on puisse dire, mais alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une évolution hein, dans le style de Taylor Swift, qu'il soit vestimentaire ou musical. En fait, les premiers albums de Taylor Swift sont évidemment marqués par toute l'esthétique country.
Oui, elle vient de loin, hein, même au niveau du look, vous l'avez dit. Bon, voilà, ça s'est très très fort arrangé. Mm-hmm. Mais les trois premiers disques de Taylor Swift en 2006, 2009 et 2010 ont des sonorités country, pardon, qui pour moi, je veux dire, personnellement, moi, ça me laisse un petit peu de marbre. Mm-hmm. C'est un peu folklorique, je trouve. Et surtout, j'ai toujours l'impression d'entendre la même chanson. Elle opère.
Mais il va un gros virage.
Un gros virage à partir du quatrième et du cinquième album, Red in 1989. C'est un virage pop. Et là, elle commence à se rapprocher de nous. En 2017, ça commence à devenir un peu plus intéressant avec l'album Reputation qui recadre l'univers de Taylor Swift vers l'électro et le R&B. Mm-hmm. Ça devient bien en 2020 avec deux albums intimistes, Folklore et Evermore, qui voient Taylor Swift faire du recyclage et proposer un répertoire, un des folk, qui lui va assez bien. Mm-hmm. Et les compos, on voit là aussi, on commence à remarquer quand même son talent d'autrice. Et puis en 2022, ça devient phénoménal pour moi avec l'album Midnight, qui aligne des chansons dignes de la plus grande science de la composition pop. Pour résumer la trajectoire musicale de Taylor Swift, on peut dire qu'elle part de là. Corey's eyes are like a jungle, he smiles, it's like the radio. He whispers songs into my window in words that nobody knows. There's pretty girls on every corner, they're watching as he's walking home, saying, does he know? Voilà, elle a 16 ans, c'est un extrait de son premier album, Stay Beautiful. Voilà, c'est son style à 16 ans. Les Américains en raffolent. Nous, elle va mettre un certain temps à arriver jusqu'à nos oreilles. Elle part de là et elle arrive ici.
Faut dire aussi, c'est que ces textes parlent beaucoup d'adolescence. Et une des raisons pour moi pour lesquelles elle va percer à ce point, c'est qu'elle parvient à parler aux adolescentes américaines d'abord. Et ça, c'est très impactant.
Ici, dans Anti-Hero, elle parle vraiment de son problème. Elle fait référence à des problèmes de dépression et de santé mentale. Voilà, Anti-Hero, qui pour moi est l'une des meilleures chansons pop, sinon la meilleure chanson pop de l'année 2023. C'est une grande, grande chanson avec une grosse influence, si vous écoutez bien, quasi érudite, sur l'art de composer à la ABBA.
On va faire une première pause et ensuite on revient pour parler de Taylor Swift avec vous, Hélène Maquet et Sébastien Ministru. On va parler économie parce qu'en fait, la vérité, c'est que Taylor Swift, elle sauve des labels, voire des pays. Faut pas exagérer quand même. Mais elle pèse dans le game économiquement et c'est de là évidemment que vient une partie de son pouvoir. Come back, I'm
ready for come. You know, there's this thing people say about celebrities that they're frozen at the age they got famous. And that's kind of what happened to me.
La première.
I want to still have a sharp pen and a thin skin and an open heart.
Entrez sans frapper.
Pur produit américain, hein, Taylor Swift est le sujet d'Entrée sans frapper aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce soir à minuit, une sort son nouvel album et parce qu'on dit aussi que cette jeune fille pourrait peser dans l'élection à venir aux États-Unis qui va opposer Joe Biden et évidemment Donald Trump. Ce sera le 5 novembre prochain et des experts disent quand même que Taylor Swift pourrait avoir son mot à dire dans cette histoire, ce qui est complètement fou. Hélène Maquet, on va parler économie avant de parler de politique avec vous concernant Taylor Swift, parce que Taylor Swift, milliardaire, Forbes, elle est rentrée dans le grand classement de chez Forbes, et milliardaire grâce à sa musique. On va commencer par le début, et en fait le début de la folie mondiale Taylor Swift, c'est comme cette une du Time, où bah, c'est plus qu'une chanteuse, c'est une personnalité politique. Taylor Swift, personnalité de l'année pour le magazine Time. Pourquoi c'est important, en fait, Hélène ?
Mais parce que ça montre à quel point, en vérité, elle est un phénomène économique et elle est même, quelque part, le symbole du fonctionnement, aujourd'hui, de l'industrie musicale, de l'industrie culturelle et même plus globalement de l'économie mondiale. Quand Time, l'élite personnalité de l'année, ce que Time écrit, c'est la première personnalité du monde des arts à être nommée personne de l'année pour son succès en tant qu'artiste. En vérité, ce que le Time dit, c'est pas l'apport culturel de Taylor Swift, c'est son impact économique. Elle succède en fait à Volodymyr Zelensky, à Elon Musk, à Kamala Harris, à Joe Biden, à Greta Thunberg, au pape François. Donc elle vient s'inscrire dans une lignée qui est pas tellement l'impact culturel qu'elle est en train d'amener avec sa musique. On le dit, première milliardaire, c'est aussi à faire de l'argent à partir de sa musique et de ses créations artistiques. C'est quelqu'un qui a compris les codes de l'économie de plateforme et comment faire de la valeur ajoutée sur des produits culturels dans l'économie actuelle. C'est d'ailleurs pas très étonnant parce qu'on dit, enfin pas très étonnant, elle grandit dans un environnement familial où son père, il est conseiller financier pour une grande banque, sa mère, elle a été directrice marketing, elle vient pas du tout d'une famille de redneck. En vérité, elle vient d'une famille qui a des vraies connaissances et elle naît quand même dans un environnement où il y a les outils pour comprendre comment on fabrique de l'argent, et elle a très bien compris, avec l'arrivée du streaming, que c'est sur les tournées et que c'est sur les méga-concerts qu'il va falloir miser.
Parce qu'effectivement, en fait, Taylor Swift, c'est beaucoup de choses. C'est la pression sur les streamers, c'est aussi la pression sur les anciens labels, parce qu'on sait qu'elle a réenregistré ses vieux albums, on va y venir. Tout cela est très réfléchi chez elle. Effectivement, Hélène, ce qui fascine, c'est vraiment le poids de sa dernière tournée. Tout le monde a vu des images, qui s'appelle The Eras Tour.
Ouais, c'est les billets sont très chers, c'est un très gros spectacle, c'est la manière de faire des gros concerts aujourd'hui, c'est Beyoncé, c'est Mylène Farmer aussi quelque part aujourd'hui, c'est ces énormes spectacles très complets, les billets sont chers, on estime que cette tournée, elle pourrait générer $1 milliard de recettes, et d'après des projections de Bloomberg Economics, elle pourrait cette tournée générer 4,6 milliards d'activités économiques. Et c'est ça, en fait, qui est assez neuf, en tout cas qui apparaît, qui n'est pas tout à fait neuf, mais qui apparaît vraiment
avec
ce phénomène Taylor Swift et avec Beyoncé. C'est quand même les deux très grosses tournées qui ont démarré au printemps dernier et qui font apparaître, en fait, à quel point l'arrivée de la tournée génère effectivement des bénéfices en soi, les concerts génèrent des bénéfices $1 milliard de dollars, mais génèrent de l'activité économique, des chambres d'hôtel, des restaurants, des transports, les gens prennent des billets d'avion, parce qu'en fait les concerts ils se jouent pas partout. Chaque spectateur, en moyenne, dépense $1 300 pour aller voir Taylor Swift.
Non.
En moyenne.
Oh.
C'est ça en fait. L'impact économique, quand on parle d'impact économique des tournées de Taylor Swift, c'est ça, et c'est comme Beyoncé, c'est la même chose. Il y a des projections qui disent que les deux tournées pourraient générer 8,5 milliards de dollars à l'économie américaine, et ça ferait gonfler le PIB américain. Donc on dit elle provoque un rebond de l'économie. Alors évidemment, c'est un narratif. Je veux dire, rebond de l'économie, n'exagérons pas, elles vont pas sauver l'économie. Mais l'impact, il est là, et elles ont su trouver, et Taylor Swift, dans ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement visible. Elles ont su trouver comment agencer ces tournées dans l'économie mondiale.
Alors, ce qu'elle a aussi très très bien compris, Hélène, c'est comment fonctionne le marché de la musique depuis l'arrivée du streaming, qui a été une immense révolution.
Oui, où elle a d'ailleurs, à un moment donné, boycotté Spotify, Apple, sur la question de la rémunération des artistes. Donc elle se positionne quand même très tôt parce qu'elle comprend le fonctionnement. Et puis, elle a fait quand même un truc qui est totalement hors norme et qui est extrêmement créatif en matière de captation de la plus-value et de la gestion des droits d'auteur, c'est que en fait elle va perdre les droits, ses droits d'auteur sur ses 6 premiers albums, parce que son premier label qui s'appelle Big Machine Records a été racheté par un type qui s'appelle Scooter Braun et qui est ce nouveau type d'entrepreneur culturel qui rachète des droits pour les valoriser dans l'environnement du streaming. Et Scooter Braun, il va revendre le catalogue de Taylor Swift, donc les 6 premiers albums, à une holding, un fonds d'investissement qui s'appelle Shamrock. Taylor Swift, elle perd ses droits.
Ouais. Elle perd les droits, là.
Elle perd ses droits.
Mais...
Et elle va faire quelque chose d'hallucinant.
Les Taylor Version.
Les Taylor Version. Elle réenregistre ces albums-là. Elle commence avec le premier morceau, Love Story, qui est sorti en 2008. Elle le réenregistre en 2021, 13 ans plus tard, et directement... Elle prend la première place au Billboard avec un vieux morceau parce qu'elle l'a réenregistré. Et aujourd'hui, quand on cherche Taylor Swift sur les plateformes de streaming, on a l'ancienne version, elle n'a pas les droits. On a la Taylor's Version qui est une version réenregistrée. Ça, c'est quand même quelque chose nouveau. D'extrêmement créatif.
Et elle n'a pas fait un album, hein. Elle en a refait.
Elle en a fait six.
Elle refait tout. Et ça, c'est extrêmement créatif. Après, tout le monde ne peut pas le faire.
Non.
Elle peut le faire parce qu'elle est Taylor Swift. Mais elle... va contre l'industrie, elle va contre l'évolution de l'industrie en menant des actions. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et c'est aussi parce qu'elle a un énorme pouvoir.
Énorme pouvoir. Mais justement, on en parle du coup. Sébastien, elle est devenue un phénomène de société aujourd'hui. Hein, vous le dites, hein, la une du Time. C'est pas que la musique, c'est vraiment un personnage. Comment on peut analyser, Séba, cette mutation d'idole country musicale à femme de pouvoir?
Mais ça s'explique d'abord par un effet d'identification à la personnalité et à l'univers de la chanteuse, notamment, vous le disiez Jérôme, chez les ados, pour qui elle est devenue vraiment une source d'inspiration.
Ah ouais.
Je veux dire, les jeunes, les ados, voient leur vie à travers les chansons de Taylor Swift. Et cette identification à l'univers de la chanteuse est d'autant plus une performance dans le cas de Taylor Swift, sachant que c'est prise de position politique.
On y viendra.
Hélène va nous en parler tout à l'heure, mais sont clivantes et l'ont coupée d'une partie du public parce qu'à un moment donné, la jeune fille, et on le voit, c'est vraiment elle est l'incarnation de la réussite de l'Amérique blanche, chrétienne, patriote, entrepreneuse. Hélène nous le soulignait encore à l'instant. Et jusqu'à un certain âge, elle reste très, très éloignée des questions politiques, de la politique. Dans les interviews, d'ailleurs, elle déclare des choses très contrôlées, très cadrées, comme les gens ne veulent pas entendre mes opinions politiques. Ils veulent m'entendre chanter à propos de mes ruptures. Aujourd'hui, et c'est ce qui fait son aura aussi chez nous et partout aux États-Unis, c'est le contraire. Les gens veulent entendre les prises de position contre les conservateurs, contre les politiques réactionnaires, contre Trump de Taylor Swift. Et ces statements prouvent qu'elle a mis en péril d'une certaine manière sa carrière et qu'elle a donc pour les gens le courage de faire passer ses idées d'abord avant le business. Et c'est en fait ces statements qui alimentent aussi l'idée de libération de la parole chez les femmes, des déclarations et un comportement politique qui donne envie d'aller écouter sa musique.
Et si vous regardez ce célèbre documentaire sur Taylor Swift, vous verrez filmé en direct ce moment où elle va s'engager en politique, elle va
faire
son premier tweet, elle envoie un tweet et... elle enflamme Twitter à l'époque, X
aujourd'hui. Et son père est contre.
Et on voit ce moment où elle va basculer de chanteuse à... Autre chose, femme de pouvoir, en l'occurrence. On va écouter une chanson là tout de suite. Laquelle et pourquoi, Sébastien?
On va écouter The Great War, qui est extrait du dernier album Midnight. C'est une chanson qui est très particulière, parce qu'on l'a dit, elle écrit très bien. Son songwriting est de plus en plus intéressant. Et c'est une chanson qui a inspiré, c'est la première chanson qu'on étudie dans un cours à l'université de Gand, qui est un cours délivré par une assistante prof de littérature française, Ellie McCausland, et elle explique que cette chanson de Great War, elle peut être mise en parallèle avec un poème de Sylvia Plath parce que ça parle de la Première Guerre.
Taylor Swift étudie à l'UNIF avec ceci. We can plant a memory garden, say a solemn prayer, a place of poppy in my hair. There's no morning glory, it was war, it wasn't fair. Go back to that bloodshed, crimson clover, the worst was over, my hand was Mais pourquoi cette chanson est étudiée à l'université, notamment ici, hein, chez nous, à Gans, s'appelle The Great War, Taylor Swift, de la vedette country à la femme de pouvoir. C'est le sujet d'Entrée sans frapper aujourd'hui.
La première.
I found that kind of a general rule is that if you start out trying to do things in a business sense, a lot of times it falls flat on its face.
11h30, 13h. It's me.
But I feel like if you start out with the right intentions and you want to do the right thing, that usually works out.
Entrée sans frapper.
I am the problem, it's me. C'est moi le problème, hein, c'est moi, dit Taylor Swift, étudié donc à l'UNIF, hein, Seba.
Oui, donc c'est cette professeure à l'université de Gand, professeure de littérature anglaise, Ellie McCausland, qui a déclaré donc vouloir jeter des ponts d'analyse entre les paroles des chansons de Taylor Swift et les textes des grands auteurs anglo-saxons. Mm-hmm. Et donc elle a commencé avec cette chanson qu'on va écouter, The Great War, qu'elle met en parallèle avec... qui évoque en fait une histoire d'amour avec toute la mythologie et tout le vocabulaire de la Première Guerre mondiale. Mmh. Et elle met ça en parallèle avec un poème de Sylvia Plath. Personnellement, moi, je trouve ça génial. Ce module à l'université de Gand est une première en Europe, même si Taylor Swift est au programme d'autres universités. Mmh. Elle est étudiée à l'université de New York. Elle est étudiée à l'université de Stanford aussi.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le pouvoir médiatique de Taylor Swift. Et le pouvoir médiatique de Taylor Swift, tout le monde est à genoux, évidemment, pour la faire parler. Il vient notamment d'une espèce de triste événement créateur qui est les Video Music Awards d'MTV en 2009. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment qui a fait histoire de la télévision américaine?
Ouais, c'est un moment vraiment mondial, médiatique, et un moment d'humiliation pour Taylor Swift. On est en 2009, c'est les MTV Music Awards, et elle gagne le MTV Music Awards pour la meilleure vidéo. Et donc elle monte sur scène pour prendre son prix, et à ce moment-là, il y a Kanye West qui arrive, qui lui dit « Désolé de t'interrompre, Taylor, tu vas reprendre la parole et tout, mais pour moi, la meilleure vidéo de cette année, c'est la vidéo de Beyoncé. » On voit d'ailleurs Beyoncé qui est complètement... Elle se demande ce qu'il est en train de faire. Mm-hmm. Et c'est un moment où on voit dans le visage de Taylor Swift que tout son être est en train de tomber devant des millions de gens. Elle a mis, elle le dit, et je peux la croire, un an à se remettre de cette humiliation mondiale.
C'est intéressant de voir qu'on la met souvent face à face avec Beyoncé, mais elles se coordonnent en fait pour sortir leurs albums et jamais se retrouver. Donc ça montre aussi à quel point il y a ce qu'on montre, le narratif, les clashs, etc. Et puis derrière, la réalité des ventes de disques.
Alors, politique, parce que c'est important. Est-ce que, Hélène, Taylor Swift est politisée à la base? Elle vient du Sud, hein?
Ah, elle vient de Pennsylvanie.
Elle vient de Pennsylvanie. Mais
elle va à Nashville. Mais donc, elle vient plutôt d'une famille du Nord. Ouais. Et elle est pas, elle est pas politisée. En tout cas, elle est consensuelle parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Et puis, il y a ce fameux, on le voit, dans ce fameux, documentaire, qui est sur Netflix, Miss Americana, qui est un documentaire qui est produit par elle-même.
Bien sûr.
C'est expliqué, elle raconte ce qu'elle veut raconter. En 2018, elle fait ce truc, effectivement, qui sort du cadre. Elle décide de soutenir, c'est les midterms, en fait, dans le Tennessee, qui est donc son État. Il y a une des candidates qui s'appelle Marsha Blackburn, qui est une républicaine et qui a des prises de position très conservatrices. Et Taylor Swift, à ce moment-là, elle se dit... Je peux pas accepter ça. Je vais soutenir le candidat démocrate qui est en face et qui s'appelle Phil Bredesen. Et elle va faire un post, parce que évidemment c'est la manière de communiquer, sur Instagram, pour dire « je dois être du bon côté de l'histoire ». C'est ça son argument, soutenez-le parce qu'on ne peut pas accepter ça. Ce qu'elle dit Marsha Blackburn, c'est que elle a voté contre l'égalité salariale pour les femmes, elle a voté contre la réautorisation de la loi sur la violence à l'égard des femmes, donc c'est sur ces thématique-là qu'elle s'est positionnée en premier.
Et les questions LGBT aussi.
Les questions LGBT, et puis elle a tout simplement demandé aux adolescents américains de s'inscrire sur les listes pour aller voter. Et on a vu que, par exemple, un poste a généré 160 000 inscriptions pour aller voter dans la part des jeunes américains. C'est pas anodin, 160 000 sur un pays qui compte un peu plus de 300 millions de personnes.
Et à la fin de ses vidéos, parfois, elle lance des pétitions.
Alors, ce qui fascine aussi, c'est cette espèce de rumeurs, est-ce que c'est vrai ou pas, sur, comme quoi Taylor Swift, elle pourrait peser dans l'élection du 5 novembre aux États-Unis.
Il y a un sondage Newsweek qui dit qu'elle pourrait influencer 18% des voix. C'est un narratif. C'est parce qu'elle est dans un momentum aussi.
Et on voit qu'elle contrôle tout le narratif. Alors, hein, c'est elle qui produit le documentaire, c'est elle qui fait les communiqués de presse, c'est elle qui gère le narratif.
Voilà, c'est sûr que Joe Biden espère qu'elle va se prononcer parce que, en vérité, qu'est-ce qu'elle peut faire Taylor Swift que personne d'autre ne peut faire? Elle a une communauté des Swifties hallucinante et elle a un rapport avec eux qui est pas un rapport de star, mais qui est vraiment un rapport d'influenceuse. Donc un rapport horizontal où il y a une extrême confiance de la part de ses followers, ses fans, les Swifties, en ce qu'elle va dire et ce qu'elle va faire. Parce qu'elle est pas considérée comme partisane. Mm-hmm. Elle est considérée comme une grande sœur. Et donc si Joe Biden a le soutien de Taylor Swift, il a une personne qui, en un mot, fait voter toute une communauté. Elle n'a pas besoin d'arguments parce qu'elle est dans l'émotion, dans le rapport avec sa communauté. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir quelle est la posture idéologique de Taylor Swift. Est-ce qu'elle est de gauche, est-ce qu'elle est de droite? Alors, moi je dirais que Taylor Swift, c'est une émanation du capitalisme. On dit que le capitalisme, il prend les codes culturels de n'importe quel mouvement, aussi anticapitaliste soit-il, pour les recracher et faire de l'argent dessus. Il y a deux exemples. Il y a l'album folk qu'elle a fait en sortie de confinement, qu'elle appelle folklore. Je veux dire, c'est gros comme une maison.
Elle fait
une chanson avec Bon Iver et là, elle se dit, ok, moi je reprends le folk, je reprends la musique indé et paf, 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 je fais de l'argent dessus. Et puis, il y a vraiment ce personnage, ce caractère de la girl boss. Aujourd'hui, c'est ça Taylor Swift. C'est vraiment la femme qui est une entrepreneuse, qui est indépendante et qui est capable de mettre en œuvre un succès économique. En fait, elle reprend avec cette posture de girl boss les codes du féminisme au service du marché.
Au service du marché, hein. Et c'est vraiment une des finalités. Il n'y a rien à faire. On ne tente pas de gérer un narratif comme celui-là pour rien. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs univers, il y a plusieurs buts hein, dans la carrière de Taylor Swift. L'argent, évidemment, en fait partie. Elle ne s'en cache pas, hein, d'ailleurs.
C'est l'Amérique décomplexée aussi.
C'est l'Amérique décomplexée. On termine avec un morceau de Taylor Swift, les amis.
Oui, on a écouté en entier quand même ce chef-d'œuvre qui est Anti-Hero.
Anti-Hero, c'est un chef-d'œuvre pour vous, Sébastien. Eh bien, si Sébastien le pense. Le nouvel album de Taylor Swift, il sort
à minuit.
Demain, oui. À minuit une, donc aujourd'hui à minuit une, demain à minuit une, je sais pas comment faut dire. Mais en tout cas, c'est cette nuit, ça va être un événement. Like
scary movies. 11h30, 13h.
It's alive. Footsteps in, but there's no footsteps out.
Oh, God.
It is entitled Nacheron de Manto. Roughly translated, Book of the Dead.
Entrez sans frapper
sur la première.
Passer de Taylor Swift à Torgal, that's what we do. C'est ce qu'on fait ici. Bonjour Franck Istas.
Bonjour Jérôme.
Pour votre chronique inspirée de faits réels, vous avez choisi de nous parler d'une bande dessinée absolument mythique. C'est Torgal, créée en 1977 dans le journal Tintin par l'immense dessinateur Grégor Rosinski et le génial scénariste à succès Jean Van Hamme. Alors, avant de nous expliquer de quel fait réel s'inspire Torgal, vous pouvez d'abord nous résumer en quelques mots de quoi parle cette série.
Oui, alors on pourrait dire que ça commence comme ceci. Un dracar viking est pris dans une tempête terrible et recueille un bébé qui se trouvait dans une petite embarcation très bizarre. Le chef de ces vikings adopte ce bébé petit garçon et décide de l'appeler Torgal Aegirson parce qu'il considère que ce bébé est envoyé par Thor, le dieu nordique du tonnerre, et Aegir, le dieu des mers. Et on va vite se rendre compte au fil des albums que Torgal est voué à un destin hors du commun. Alors qu'il n'aspire qu'à vivre en paix avec sa femme Aricia et ses enfants, les dieux, avec beaucoup de cruauté, vont s'amuser à l'éloigner de son foyer pour lui faire vivre des aventures terribles et extraordinaires. Alors je vous ai choisi, parce que ça existe, un extrait du disque consacré à Torgal sorti en 2001. Et vous allez comprendre à quel point il doit subir toute sa vie la colère des dieux.
Il ne m'appartient pas de te révéler la suite de ta destinée. Car tu ne trouverais pas la force de l'affronter. Repose-toi dans les bras de la déesse avant de replonger dans la détresse à laquelle toute vie semble condamnée.
Mais je savais pas du tout qu'il y avait le disque Torgal.
Moi non plus, j'ai découvert ça pour la chronique.
C'est un peu ASMR.
C'est le groupe R qui a fait.
Je sais pas trop.
Oui, non, il y a eu un disque et Torgal sera en tournée cet été sur la Tour, je pense. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, je vous vois venir, Franck. Est-ce qu'on peut dire que la BD Torgal s'inspire clairement de la mythologie nordique?
Alors complètement, et avec de solides notes de fantaisie dedans, mais pas que. Parce que dans Torgal, il est aussi question de science-fiction. Torgal est non seulement maudit des dieux nordiques, mais c'est également l'enfant des étoiles. Je m'explique.
Ah bah oui.
On apprend dans la série très vite, d'ailleurs, que Torgal est le dernier descendant du peuple des étoiles, une population très évoluée qui a quitté la Terre il y a des centaines et des centaines d'années avant que nous n'arrivions. Et ce peuple des étoiles décide un jour de revenir sur notre bonne vieille planète, mais leur vaisseau spatial se plante et la maman de Torgal a juste le temps de le mettre dans une petite capsule envoyée vers la Terre. C'est la fameuse embarcation bizarre avec Torgal bébé à l'intérieur, recueilli par le drakkar viking. Et ça ne s'arrête pas là. Mmh. On apprend également que le grand-père de Torgal a survécu au crash du vaisseau et qu'il s'est réfugié très loin, par-delà les mers du Nord, dans un pays chaud. Et là-bas, fort de son avancée technologique, il est devenu le dieu vivant Tanatloc, adoré par les Xinjin, une peuplade indienne. Et encore mieux, le père de Torgal a aussi survécu. Mais lui, c'est devenu un personnage belliqueux, sanguinaire et complètement fou. Il est également arrivé sur Terre, il fait régner la terreur sous le nom d'Ogotai, le dieu roi, dans une cité qu'on pourrait comparer à une cité maya. Et cet Ogotai a conservé son casque d'astronaute et son pistolet laser qui peut tuer à distance avec des rayons.
Oh.
Torgal se retrouve tiraillé entre son père et son grand-père, au cœur d'un cycle mémorable de la bande dessinée, le cycle du pays K. Et c'est ça qui est inspiré de faits réels.
Ah, donc, pour résumer,
oui,
des hommes de l'espace seraient venus sur Terre, et grâce à leur avancée technologique, ils se seraient fait passer pour des dieux auprès d'anciennes civilisations humaines, comme celle des Mayas, par exemple, et ça, vous allez me dire que c'est inspiré de faits réels.
Alors, totalement, c'est une théorie qui était très en vogue dans les années 70, c'est la théorie des anciens astronautes. En résumé, des extraterrestres seraient venus sur Terre au temps des hommes préhistoriques, des pharaons du Moyen-Âge, tout ce qu'on veut, et leur auraient transmis leur savoir. Un exemple concret, en rapport avec Torgal, en 1952 à Palenque, une ville maya antique du Mexique, des archéologues, et ça c'est vrai, découvrent un sarcophage sur lequel est gravé dans la pierre une représentation du roi Pakal, censé avoir régné 600 ans après Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que ce roi maya Pakal semble être représenté sur son sarcophage en train de piloter un vaisseau spatial. On écoute un extrait du vieux documentaire des années 70 consacré à cette théorie, dans lequel l'équipe de tournage a pu filmer pour la première fois ce sarcophage.
Ce qui s'offre à notre objectif est si stupéfiant qu'il convient de l'examiner en détail. Nous voyons un homme assis dans une capsule, le regard intensément fixé sur quelque chose. Ses mains semblent actionner quelque indéfinissable commande. Son pied appuie sur une pédale. À l'arrière de la capsule, nous voyons des tuyères crachant des faisceaux de flammes. N'est-ce pas là la position type de l'astronaute, telle que nous la connaissons aujourd'hui ?
Eh bien, je pense que oui.
Et oui, et c'est exactement comme dans Torgal, qui arrive sur Terre, comme son père et son grand-père d'ailleurs, à bord d'engins spatiaux. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'Ogotai, le père de Torgal, faisait régner la terreur avec son casque d'astronaute et son pistolet laser dans la BD. Eh ben ça, c'est carrément la même chose que l'histoire du dieu de l'espace, Beppe Kororoti.
Jamais entendu parler. Allez, on raconte.
Alors la légende veut qu'un homme vêtu d'un scaphandre et d'un casque, muni d'une arme qui pouvait tuer à distance ou détruire des arbres, soit arrivé du ciel dans un vaisseau volant dans les montagnes de Pucatoti, chez des Indiens d'Amazonie. Non mais ça, ce qui existe réellement. Mais ce qui est dingue, c'est que ces Indiens qui croient à cette légende ont continué après le départ de cette extraterrestre à le représenter dans leur folklore. Et encore de nos jours, chaque année, lors d'une fête en l'honneur du dieu de l'espace, des danseurs se déguisent en Beppe Kororoti avec un costume fabriqué en liane et en feuilles. Mais ce costume folklorique ressemble quand même, selon certains, à une combinaison spatiale. Je vous ai encore choisi un extrait de ce documentaire sur la théorie des anciens astronautes.
Ce costume, et jusqu'à la démarche gauche du danseur, nous rappelle les cosmonautes sur la Lune. À cette époque, nul ne savait, et encore moins les caïpas, à quoi ressemblerait une combinaison spatiale.
Ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, c'est assez génial. Parce qu'effectivement, pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas hier, hein, si les galaxies sont à ce point espacées, pourquoi pas au Far West, hein, il y a eu un film avec les au Far West, je m'en souviens. Bon, il y a plein d'autres exemples, en fait, de cette théorie des anciens astronautes. Et, bon, est-ce que ça tient debout?
Alors, il y a des centaines, des milliers d'exemples, mais ce n'est pas du tout pris au sérieux par la communauté scientifique. Rien, mais rien, n'a jamais pu convaincre aucun archéologue que des êtres venus de l'espace sont entrés en contact avec des humains dans le passé. Mais cette théorie, poétique, même si elle est fausse, je pense qu'elle l'est, a ouvert le champ de l'imagination de pas mal d'auteurs, dont les auteurs de la BD Torgal, pour notre plus grand plaisir.
Et relire Torgal, bien évidemment, de Rosinski et Vanna. Merci Franck. Merci Hélène Maquet.
Avec plaisir.
Merci Seba.
Avec plaisir.
Merci Taylor. Merci Eve et Marie-Agnès. On vous laisse dans les mains de Sophie Léonard pour les informations et ensuite un jour dans l'histoire.
La première.
L'esprit clair. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.